France Culture.
Culture, question du soir. Quentin l'a fait.
Si l'on a souvent les yeux braqués sur la force politique que représentent les évangéliques aux États-Unis ou encore au Brésil, force est de constater que les groupes évangéliques ont moins de poids en France malgré l'impressionnant essor de ses fidèles. Dans les années 70, seuls 0,2% de la population se déclarait évangélique contre 1,6% aujourd'hui, soit 1,1 million de personnes. Dans le monde, une personne sur 12 donc est évangélique. Pourtant, le discours médiatique et les représentations sur ces églises changent peu. Toujours qualifiées de nouveautés, décrites presque comme une secte, elles peinent à se fondre dans la masse. Alors pourquoi la troisième religion pratiquée en France semble toujours considérée comme une minorité? Comment expliquer son succès grandissant? Un invité ce soir pour en discuter, Sébastien Fatt, bonsoir.
Bonsoir, merci de m'avoir invité.
C'est un plaisir de vous recevoir. Vous êtes historien, sociologue, chercheur au CNRS. Votre livre, Le Nouveau Pouvoir Évangélique, vient de paraître aux éditions Grasset. Merci d'être avec nous ce soir dans Question du soir. Et si l'on a souhaité cette émission, Sébastien Fatt, c'est pour une raison très simple. On parle énormément aujourd'hui de la mouvance évangélique, notamment s'agissant des États-Unis, notamment une nouvelle fois s'agissant de l'influence que cette mouvance aurait sur Donald Trump et sur son administration. On a souhaité ce soir s'intéresser donc au mouvement évangélique, mais en France. Qu'est-ce que ce mouvement représente en termes de masse, en termes de pratiques et de croyances dans notre pays ?
Alors les évangéliques, c'est une petite minorité, vous avez évoqué le pourcentage, hein, 1,6% de chrétiens en France, on est loin d'une masse de croyants. En revanche, effectivement, il s'agit de croyants qui sont de plus en plus nombreux, qui pratiquent beaucoup plus que les catholiques, qui sont militants. Le modèle social des églises évangéliques, c'est vraiment des fraternités électives assez militantes, donc qui ont un impact local qui est relativement significatif, qui s'engagent aussi beaucoup plus que d'autres. L'enquête Ipsos 2017, par exemple, sur les évangéliques et sur les protestants d'une manière générale, montrait que 30% des évangéliques s'engagent dans une association, contre 19% des autres protestants et contre 10% des catholiques. Donc il y a un taux d'engagement qui est important, hein, qui fait partie de leur culture, de leur ADN, si je puis dire. Et donc, en dépit, effectivement, de ce caractère qui reste tout de même très, très minoritaire, c'est un phénomène social intéressant. Alors, d'autant plus, peut-être, que dans nos milieux, hein, des historiens, des sociologues de la religion, ça fait longtemps qu'on parle du déclin du christianisme en France. Et du côté de l'Église, très largement majoritaire, hein, l'Église catholique, les séminaires se ferment, il y a des difficultés pour les vocations, le taux de pratique a beaucoup baissé, et les Églises sont bien souvent marqué par une moyenne d'âge assez élevée. Et moi, ce qui m'a toujours amusé, en fait, ça fait 30 ans que je travaille sur les évangéliques, moi j'observe l'inverse, si vous voulez. Hein. Autant côté
la
catholique, effectivement.
Miroir.
Voilà, c'est une dynamique de miroir. Alors c'est très particulier, c'est très singulier, mais de mon côté, c'est vrai que ces petits évangéliques que j'observe depuis longtemps, et je dis ça pas du tout de manière péjorative.
Avec affection,
voilà, avec affection, hein, c'est petit par le nombre. Eh bien, en fait, ils ont développé leurs effectifs, ils ont développé leur réseau. Ils manquent de pasteurs, ils construisent une nouvelle église tous les 10 jours. Hein, donc, c'est effectivement une dynamique qui est très différente de ce qu'on observe sur d'autres terrains.
Une minorité, mais tout de même, 1,1 million de personnes en France évangéliques, ce n'est pas rien. Troisième religion de France. Je voudrais qu'on revienne un instant aux définitions. J'ai parlé tout à l'heure de mouvance évangélique. Ce qu'il faut préciser, effectivement, c'est que c'est bien une mouvance plus qu'un courant et qu'il n'existe pas d'institution évangélique.
Absolument, il n'y a pas une église évangélique centralisée, on n'est absolument pas dans une culture de l'institution hiérarchisée top-down, si je puis dire. On est dans un modèle effectivement réticulaire qui part du bas, avec une très très grande diversité de réseaux, de dénominations, de sensibilités théologiques, de formes sociales, avec néanmoins quelques traits communs, sans quoi on ne pourrait pas parler de cette mouvance évangélique. Il y a quand même un certain nombre de caractères communs.
Alors je voudrais qu'on les égrène justement. Je me permets de vous couper pour chapitrer justement les points communs à cette mouvance. Le premier peut-être, c'est le rapport à la conversion et le rapport à Jésus-Christ plus largement.
Oui, absolument. S'il y avait vraiment un point à retenir, c'est celui-là. Les églises évangéliques mettent l'accent sur la conversion, sur le changement personnel, la transformation de la trajectoire biographique, suite à un événement qui est identifié par les évangéliques dans leurs récits, dans leurs témoignages, comme la rencontre avec Jésus-Christ. Et la figure de Jésus-Christ, effectivement, est très importante pour les évangéliques. C'est vraiment la figure qui concentre en fait le drame de l'humanité, alors avec à la fois la mort, avec à la fois la destruction, qui est interprétée par les évangéliques, mais par d'autres chrétiens aussi, comme une conséquence du mal et du péché. Alors j'utilise un terme théologique, mais qui est très important dans ces milieux.
Jésus meurt pour les évangéliques, voilà, pour expier le reste de l'humanité de ses péchés.
C'est cela. Mais il y a aussi la résurrection. Il y a évidemment cette nouveauté de vie qui est prêchée matin et soir dans les églises évangéliques, avec l'idée qu'on peut naître de nouveau. Et là, c'est la notion de nouvelle naissance. Mm-hmm. Alors qu'on utilise souvent en anglais, en France, alors c'est amusant parce que ça vient pas des États-Unis. La notion de nouvelle naissance, alors on la trouve déjà dans les textes bibliques. On la retrouve ensuite dans de nombreux auteurs. Dans un classique, par exemple, du piétisme, les Pia Desideria, on parle beaucoup de cette nouvelle naissance. Et c'est l'idée donc que tout est possible à partir du moment où on se tourne vers Jésus-Christ. Et je dirais que dans un monde aujourd'hui qui est marqué par une modernité désenchantée, où les grands récits qui ont construit en fait cette modernité triomphante de la deuxième moitié du XXe siècle sont aujourd'hui en panne, avec des jeunes qui ont du mal à se projeter vers l'avenir. Aujourd'hui, on a de nombreux matériaux d'enquête, je pense à ces données de l'INSERM encore récemment, sur la dépression chez les jeunes en France depuis le Covid. Il y a une difficulté à se projeter vers l'avenir. Eh bien, de ce point de vue, l'offre évangélique, qui est une religion pour espoir plus qu'une religion pour mémoire, eh bien, elle répond en fait à de nombreux besoins.
Donc, on en a parlé, la conversion, c'est peut-être le point fondamental, le point nodal même. Deuxièmement, il faut aborder la question de la revendication d'orthodoxie biblique. Au fond, les évangéliques sont des orthodoxes. Ils suivent le plus possible la lettre des évangiles.
En effet, il y a une dimension normative importante, une dimension nomique, comme dirait le sociologue Serge Moscovici. Les évangéliques sont une minorité nomique, c'est-à-dire qu'elles défendent des valeurs, elles produisent des valeurs, elles inculquent des valeurs, avec un contrôle social qui va avec, et qui peut parfois dériver d'ailleurs vers certaines
formes sectaires. On y reviendra,
bien sûr. Mais effectivement, il y a cet accent sur des repères fixes qui sont inculqués dans les assemblées, qui sont vécus autant que faire se peut également par les membres de ces assemblées. Et donc, c'est quelque part des repères, et certains convertis parlent même de code de la route, une forme de code de la route en termes de valeurs, qui leur permet de se situer dans un monde qui, par ailleurs, est parfois un peu indéchiffrable.
Troisième caractéristique, la pratique chez les évangéliques du prosélytisme. Alors peut-être, cette notion-là, il faut l'expurger de toute la partie négative qui existe communément. C'est un prosélytisme, comment vous le caractériseriez ?
Alors, pour ma part, le terme prosélytisme n'est pas péjoratif. Et pour ma corporation, des historiens, des sociologues, c'est simplement un terme d'analyse, en fait, qu'on utilise pour toutes les religions. Dès lors qu'il s'agit de faire des adeptes, de faire des convertis, eh bien, il faut présenter l'offre de salut. Et dès lors qu'on présente l'offre de salut, on entre dans une dynamique prosélyte. Donc, il n'y a rien de péjoratif. Mais c'est vrai que dans la langue courante, le terme est devenu un petit peu équivoque, voire même négatif. Alors, ce qu'on pourrait peut-être distinguer, c'est le prosélytisme et le racolage. Le racolage, c'est vraiment l'offre...
Ça, c'est péjoratif, on est
voilà,
d'accord.
Là, c'est péjoratif. Là, on est dans une offre facilement agressive. Le prosélytisme, non, il n'est pas nécessairement agressif. Il s'opère de multiples manières. Alors, ce qu'on repère au travers des enquêtes, c'est que contrairement à l'idée reçue qui met souvent l'accent sur les grandes croisades, les grands rassemblements, les grands congrès spectaculaires, Billy Graham ou Veldive, Billy Graham à Bercy, les grands rassemblements autour de ce que j'appelle les gladiateurs du Seigneur. Ça, en fait, c'est vraiment la partie émergée. Mais l'essentiel du prosélytisme, c'est pas là qu'il se fait. L'essentiel, il se fait en fait dans le bouche à oreille, dans les relations de voisinage, les relations de travail, de personne à personne. C'est en fait comme ça que ça fonctionne la plupart du temps.
Il se fait aussi dans le métro. On va écouter une influenceuse évangélique, prosélyte pour le coup, qui s'appelle Johanna Exbriat. Alors, elle raconte justement la façon dont elle peut convertir ou tenter de convertir de nouveaux fidèles.
Les gens, en fait, vont plus à l'église du village toquer à la porte. Ils sont sur leur portable pour évangéliser sur les réseaux sociaux. Les évangéliques, on est proche des gens. On s'est adapté à eux. On s'habille comme eux. On parle comme eux. On est sur les réseaux sociaux comme eux. Mais le message, lui, ne change pas. C'est vrai, c'est vrai. Nous croyons en la Bible et la Bible seule. Si toi, tu décides de rester pur jusqu'au mariage, c'est toi. Mais tu ne vas pas aller lapider quelqu'un parce qu'il ne l'est pas. Vous ne verrez jamais un chrétien lyncher un homosexuel. Non. Jamais. Mais par contre, nous croyons que Christ, dans la Bible, a donné des directives pour le chrétien. Et après, c'est à chacun de vouloir vivre ça. Un vrai chrétien, s'il lit la Bible, il ne devient pas bizarre. Non. On dit aux gens, c'est comme McDo, tu viens tel que tu es, en fait.
Et voilà, c'est tout simple, Sébastien. Enfin, tu viens comme tu es. Ce qui frappe dans la mouvance évangélique, c'est peut-être la façon dont certains utilisent les réseaux sociaux. Ils ont parfaitement la maîtrise de ces codes pour approcher et pour convertir.
Oui, autant la révolution Gutenberg a boosté, si je puis dire, la naissance du protestantisme.
L'imprimerie, donc.
L'imprimerie, absolument. Autant la révolution Zuckerberg, globalement celle des réseaux sociaux, effectivement nourrit, à certains égards, l'évangélisme. Cela dit, je crois qu'il faut faire attention à ne pas pousser la comparaison trop loin non plus, parce qu'il existe aussi... Effectivement, je l'ai fait, mais je pose des limites. C'est-à-dire qu'il y a quand même aussi toute une part de l'évangélisme qui n'est pas nécessairement connectée, qui ne se positionne pas nécessairement sur les réseaux. Et pour tout vous dire, je rentre depuis quelques heures du Bénin. Mmh. Et là, j'étais quand même assez impressionné à Cotonou, en sillonnant les rues, de voir de nombreuses églises évangéliques qui n'ont absolument aucune présence numérique. Et si on ne va pas sur le terrain, eh bien, elles n'existent pas, si je puis dire, sur Internet, mais pourtant, elles sont bien là.
Je vous cite, Sébastien Fatt, voilà ce que vous écrivez dans votre dernier ouvrage, Le protestantisme évangélique en France, à près de 250 ans d'histoire, mais il a longtemps été soumis au régime de la nouveauté perpétuelle. Le regard collectif bleu, blanc, rouge semble redécouvrir de décennie en décennie la présence évangélique, toujours perçue comme récente, d'où l'expression impropre mais souvent rencontrée de protestantisme historique, sous-entendu luthérien et réformé, qu'on oppose aux évangéliques qui ne le seraient pas. Fin de citation. Comment est-ce que vous expliquez justement que cette mouvance évangélique soit soumise à ce renouveau perpétuel ?
Je crois que la raison, elle est culturelle. La France a du mal avec ses minorités. C'est historiquement...
Mais là, c'est une minorité au carré, c'est une minorité de minorité, pratiquement.
C'est une minorité de carré, au carré, effectivement, donc ça joue beaucoup, effectivement. Mais globalement, quand on regarde l'histoire du judaïsme, l'histoire de l'islam, l'histoire du protestantisme qui englobe l'évangélisme, qui fait partie du protestantisme, eh bien, on se rend compte que ça a été quand même compliqué très très longtemps. Et comme vous venez très justement de le préciser, l'évangélisme, c'est une minorité, bon, une grosse minorité au sein du protestantisme. Alors, le protestantisme est maintenant mieux repéré par le grand public. Mais pour les évangéliques, c'est vrai que jusqu'à récemment, en tout cas, on a le sentiment, quand on regarde les médias, eh bien que c'est un phénomène nouveau, c'est une vague nouvelle, alors que la sédimentation, elle est là depuis longtemps. Il y a des églises évangéliques en France avant qu'il y en ait au Texas. L'évangélisme est présent en France bien avant la naissance de la CGT, et on pourrait multiplier les comparaisons. Et autant dans le domaine politique, en fait, la mémoire est différente. Dans le domaine religieux, on a le sentiment, quelque part, que la pluralisation religieuse française, je pense aussi au bouddhisme, par exemple, elle a un petit peu du mal à passer dans le débat culturel français. Et je crois que là, il y a un véritable enjeu, et un enjeu y compris démocratique.
Je voudrais vous faire entendre un homme qui marque peut-être un tournant au cours du XXe siècle dans le renforcement de cette mouvance évangélique en France. Il s'appelle Billy Graham. Il était venu donner un très grand discours au Vélodrome d'hiver à Paris. On est en juin 1955.
We are not here to conduct a show or to entertain you.
Nous ne sommes pas ici pour monter un spectacle ou pour vous distraire.
We are here for the purpose of presenting to you Jesus Christ and Him crucified.
Nous sommes venus vous prêcher Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié.
We believe He is the hope of the world.
Nous savons qu'il est l'espoir du monde.
The heart of the message of the Bible is Jesus Christ.
Au centre du message de la Bible se trouve Jésus-Christ.
In the center of this Bible is a cross.
Au centre de ce livre se dresse la croix.
On every church in France is a cross.
Sur toute église de France se trouve la croix.
where Christ died for your sins.
Jésus-Christ est mort pour vos péchés.
That is why we have come to this country.
C'est pour cela que nous sommes venus en France.
And we believe that the Spirit of God is moving in this country.
Et nous croyons que l'Esprit de Dieu est à l'œuvre en France.
France Culture. Question du soir. Quentin l'a fait.
Qu'est-ce qui se joue, Sébastien Fatt, dans cet événement, dans ce discours tenu par Billy Graham ?
Alors, deux choses se jouent. Au niveau interne, au niveau de la société française, cette première campagne massive de Billy Graham en 1955 au Veldiv marque l'étape de la coordination des évangéliques français. Ils sont sortis du ghetto, ils sont capables désormais de se coordonner, de travailler ensemble, de mutualiser leurs qualités.
Et d'organiser un tel événement.
Pour inviter une superstar internationale de l'évangélisme, parce que Billy Graham, c'est vraiment la star numéro un à l'époque de l'évangélisme, et ils réussissent à l'inviter en France. Donc ça, c'est au niveau interne, au niveau de l'Hexagone. Mais après, au niveau global, ce qu'il faut comprendre à l'époque, c'est que nous nous situons dans la guerre froide. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, pour les États-Unis, l'ennemi à abattre, c'est l'ogre bolchevique. Et pour beaucoup d'Américains, ce qui caractérise l'ogre bolchevique, c'est le matérialisme athée. Et donc, il s'agit d'éviter la contagion communiste en Europe. Et comment le faire au niveau culturel? Comment le faire au niveau religieux? Eh bien, il s'agit de renforcer le christianisme. Et dès lors, de nombreuses missions américaines, à partir de 1945, vont développer des efforts coordonnés vers l'Europe, et notamment vers la France, pour éviter que l'Europe de l'Ouest bascule du côté du communisme. Donc, il y a un arrière-plan politique, et à l'époque, il faut souligner que Billy Graham est également financé par certains intérêts conservateurs aux États-Unis, à la fois évangélique et en même temps extrêmement anticommuniste. Et donc c'est toute cette toile de fond finalement qu'il faut comprendre pour situer cet événement.
Je voudrais qu'on suive la courbe montante de la mouvance évangélique en France. Comment expliquer aussi son succès? Peut-on la comprendre? Doit-on même la comprendre? Parce que les autres religions catholiques, les autres religions chrétiennes, pardonnez-moi, laissent le champ libre aux évangéliques.
Alors c'est en partie vrai. C'est en partie vrai, à partir des années 50-60, dans un certain nombre d'états-majors chrétiens, et je pense en particulier à l'Église catholique, effectivement, s'est développée l'idée que désormais, une offre de salut explicite n'était plus dans l'air du temps, qu'il s'agissait d'accompagner les luttes sociales dans un contexte, rappelons-le, marqué aussi par l'importance du marxisme, dans de nombreux débats en France à l'époque, voire du maoïsme. Et dans son contexte-là, il s'agit d'accompagner les luttes, mais de mettre un petit peu en sourdine l'offre explicite du salut. C'est la thématique du levain dans la pâte, de l'enfouissement. Et pendant toute une génération, on peut dire que l'Église catholique en France a quasiment cessé l'évangélisation explicite. Mais ça a laissé effectivement du coup un espace vacant. Et les évangéliques, de leur côté, ont évangélisé plus que jamais durant les années 60, 70, 80. Et cette micro-minorité des années 50, elle est devenue finalement une minorité beaucoup plus importante aujourd'hui.
Ce succès des évangéliques, vous l'expliquez par quatre facteurs, Sébastien Fatt. Le premier, peut-être, c'est le vecteur de la socialisation familiale. C'est aussi un moyen, j'allais dire, de répandre la bonne parole.
Oui, c'est la fabrique du lien. Dans une église évangélique, on s'embrasse, on partage des repas, on va éventuellement trinquer ensemble aussi. Et je profite d'ailleurs de l'occasion pour rappeler que dans beaucoup d'églises évangéliques en France, on boit du vin. Ça, c'est une différence avec les églises évangéliques américaines. C'est une des nombreuses différences culturelles avec beaucoup d'églises évangéliques aux États-Unis. Donc, il y a un aspect effectivement de fraternité, élective, vécue semaine après semaine, qui joue beaucoup dans une société française qui évolue de plus en plus vers le néolibéralisme, où on mange de moins en moins ensemble, on va se commander des pizzas par Uber Eats. Il y a de plus en plus de solitude, et ça, on a de très nombreux indicateurs statistiques qui le confirment. Et donc, il y a une demande de lien de la part de nos concitoyens, et les églises évangéliques sont là pour y répondre.
Deuxième facteur, on en a parlé, ce sont les catholiques et séculaires déçus. Le troisième, l'importance des migrations vers la France, migrations depuis les Caraïbes et l'Afrique subsaharienne.
Oui, en effet. Au moment des accords d'Évian, en 1962, on comptait environ 20 000 subsahariens en France. Et aujourd'hui, c'est plus d'un million. Or, parmi ces migrants hein, venus d'Afrique subsaharienne, on a de très nombreux évangéliques hein, qui sont évangéliques déjà avant d'arriver dans l'Hexagone. Hein, ils sont déjà marqués par cette offre de salut. Et donc, lorsqu'ils arrivent en France, tout naturellement, soit ils vont s'insérer dans une église évangélique existante, et on a de nombreux exemples, soit ils vont créer leur propre réseau, parfois d'ailleurs parce qu'ils sont mal accueillis. Et on a de grands réseaux aujourd'hui afro-descendants, francophones, comme je pense par exemple aux églises Impact Centre Chrétien, hein, conduites par le couple pastoral Ivan et Modestine Castanou, qui rencontrent aujourd'hui beaucoup de succès, qui sont très articulés avec l'Afrique subsaharienne et au-delà, qui ont développé des réseaux à l'échelle monde. Et c'est effectivement un des facteurs de croissance des églises, avec l'enjeu derrière aussi de la créolisation. C'est-à-dire de ne pas tomber dans une marqueterie finalement d'églises les unes et les autres finalement homogènes culturellement, mais d'aboutir à une forme de dialogue, une forme d'échange, des formes d'hybridation. Pourquoi pas de créolisation, hein, au sens d'Edouard Glissant. Je rappelle que la créolisation, c'est en fait une forme de métissage, mais un peu imprévisible et sans hiérarchie entre les apports. Et en France, on compte un certain nombre d'églises créolisées, mais on compte aussi des églises très homogènes du point de vue des origines des fidèles.
Est-il possible, Sébastien Fatt, de situer politiquement la mouvance évangélique, ou bien là encore, on a affaire à une pluralité importante de parcours, de trajectoire. Aux États-Unis, on a le sentiment que cette mouvance vote pratiquement comme un seul homme. C'est faux, évidemment. Qu'en est-il en France ?
Alors globalement, on peut dire que les évangéliques français sont un peu plus à droite que l'ensemble de la population, mais c'est léger. La marge est légère. Contrairement aux idées reçues, c'est vrai que quand on regarde les États-Unis, quand on regarde ces 80% d'évangéliques blancs qui soutiennent Trump, on se dit, mais si c'est la même chose en France, on va avoir un bloc électoral au service, disons les choses, hein, du Rassemblement National, voire même de Reconquête. Mais on s'aperçoit que c'est pas du tout le cas. Lors des enquêtes de sortie des urnes qui ont été faites en 2017 et en 2022, on s'aperçoit au niveau du vote protestant et évangélique qu'il y a en réalité un survote Macron. Un survote Emmanuel Macron significatif, y compris en 2022. Par ailleurs, il y a une enquête quantitative qui a été conduite en 2025, il y a quelques mois, dans une des plus grosses églises évangéliques françaises, l'église MLK, conduite par le pasteur Yvan Carluère. Enquête sur l'ensemble des fidèles. Hein. Donc 4700 fidèles ont répondu aux questions, c'est une méga church. Et là, surprise, et je vous avoue que j'étais moi-même assez étonné, moins de 4% pour le Rassemblement National et plus de 16% pour la France Insoumise.
Ce que peuvent dire certains des déçus de l'évangélisme en France, c'est qu'ils ont eu le sentiment, au moment de s'arracher de cette mouvance, de fuir un environnement sectaire. Et cette notion-là, cette notion de secte, revient régulièrement lorsqu'on pense, notamment dans le débat public, ou à la mouvance évangélique. Comment l'expliquer ? Est-ce qu'il y a en effet peut-être les symptômes, les motifs, les tendances que l'on retrouve par ailleurs dans diverses sectes ?
Alors je dirais que ces tendances, non seulement on les retrouve dans diverses sectes, mais on les retrouve dans l'ensemble de la société. On peut trouver des abus d'autorité dans la fonction publique, dans des partis politiques. Et ces abus, on les trouve aussi, effectivement, dans les églises évangéliques.
On traite tout de même pas la fonction publique de secte.
Bien entendu, non. Mais ce que je dis, je parle de dérive. Hein. Et pour ma corporation, là encore, historien sociologue des religions, on est très très gêné à l'idée de donner une étiquette de secte à un groupe. On préfère parler de dérive sectaire. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il ne s'agit pas d'enfermer un groupe social dans une étiquette qui va l'essentialiser. Un groupe social évolue. On peut trouver un groupe social qui au départ sera plutôt sectaire et qui va s'ouvrir. On peut trouver aussi exactement le scénario inverse, et c'est ce qui se passe dans un certain nombre d'églises évangéliques.
Donc pas de surreprésentation des dérives sectaires en comparaison d'autres champs et d'autres milieux sociaux ?
Alors le rapport de la Miviludes, hein, qui est l'organisme interministériel hein, qui travaille sur les questions sectaires, a évoqué effectivement davantage de signalements côté évangélique. Mais après, il faut comprendre ce que ça veut dire. Il y a davantage de signalements, mais tout simplement parce qu'en fait, le périmètre d'étude principale de la Miviludes, c'est les religions minoritaires. Ils s'intéressent très peu au catholicisme et pas du tout à l'islam. Donc évidemment, si on regarde les religions minoritaires, les évangéliques étant la principale, aujourd'hui, la plus militante, la plus pratiquante, c'est pas du tout étonnant, effectivement, qu'il y ait davantage de signalements du côté des évangéliques, mais ça ne signifie pas qu'en soi, les églises évangéliques soient plus sectaires que d'autres religions.
Est-ce que les violences sexuelles touchent cette mouvance tout autant, j'allais dire, que la religion et l'institution catholique ?
Alors c'est différent, semble-t-il, en termes de cible. Bien entendu, il y a des problèmes de violence sexuelle dans les églises évangéliques. Il y a eu des procès qui ont condamné des pasteurs. Il y a eu également certaines organisations évangéliques qui ont mis à pied des pasteurs suite à des accusations. Donc avant même qu'il y ait procès, certains pasteurs ont été mis à pied. Donc oui, c'est un vrai problème dans un certain nombre d'églises. C'est ce que j'appelle le profil de pasteur gourou qui va utiliser son autorité charismatique, son ascendant, son prestige auprès des fidèles pour parfois abuser de la naïveté de certains fidèles et en particulier de certaines fidèles puisque la plupart des victimes sont en fait des femmes. Et là, c'est peut-être une différence avec l'Église catholique où là, semble-t-il, les cibles, c'est davantage les enfants. Dans les églises évangéliques, c'est davantage les femmes. Et ces victimes souffrent parfois d'une double peine parce que d'une part, elles ont été victimes d'abus. Et d'autre part, il y a parfois une tendance à délégitimer leur témoignage sous prétexte qu'elles auraient séduit. Donc c'est un problème très sensible et il est intéressant et je dirais salutaire, excusez-moi ce jugement de valeur, mais il sort de ma bouche, il est salutaire que les principales instances protestantes et évangéliques ces dernières années se soient saisies sérieusement de ces questions et mis en place des filières, des processus pour permettre en fait aux victimes de s'exprimer et d'être protégées.
Merci beaucoup Sébastien Fatt, historien, sociologue, et vous signez cet ouvrage passionnant également, Le Nouveau pouvoir évangélique, c'est aux éditions Grasset. Merci d'être venu ce soir dans Questions du soir. Merci également à celles et ceux qui ont préparé cette émission. Bertie Bourdon, Bruno Barada, Rodi Eken, à la réalisation, Léa Racine.